Le débat du jour. Adrien Delgrange.
Une armée européenne, une vieille idée neuve remise au goût du jour, vieille ou du moins ancienne, car dès 1950, l'Europe est à ses balbutiements et Jean Monnet, père fondateur de la Communauté européenne, propose déjà l'idée d'une armée commune neuve, car cette semaine encore, le président français Emmanuel Macron a fait part de sa volonté de voir l'Europe se doter d'une vraie armée européenne. Pour reprendre ses mots, Angela Merkel est en faveur également aussi d'une armée. La chancelière allemande l'a dit cette semaine au Parlement à Strasbourg. Une idée qui n'a pas du tout plu au président américain. Donald Trump a trouvé très insultant que la France demande une armée pour protéger notamment l'Europe des États-Unis.
RFI.
Alors pourquoi vouloir créer maintenant une armée à 27 ? Avec quels moyens et pour quel objectif ? Est-ce une manière de s'affranchir des États-Unis ou encore une Europe de la défense entrera-t-elle en contradiction avec l'OTAN ? Telles sont les questions que nous nous posons ce soir sur RFI. Bonsoir à tous. Pour en parler, Johanna Möhring, chercheure associée au centre Thucydide qui dépend de l'université Paris 2. Vous êtes également chercheure pour un institut à Londres, l'Institute for Statecraft. Bonsoir madame.
Bonsoir.
En face de vous, Pierre Haroche. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur en sécurité européenne à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, connu également sous le nom de l'IRSERM. Alors tout d'abord, d'après vous, dites-nous pourquoi maintenant, en 2018, relancer l'idée d'une armée européenne, Johanna Möhring?
Alors je pense qu'il y a bien sûr une échéance électorale. Il y a bien sûr à l'horizon les élections européennes qui auront lieu dans le printemps prochain et pour lesquelles le président Emmanuel Macron a lancé un peu le motto, la devise « l'Europe qui protège ». Donc, il a fait savoir dans d'autres déclarations, déjà l'année 2017, que de toute façon, les États-nations européens ne seraient pas capables de résoudre des problèmes économiques ou de sécurité sur le niveau national. Et qu'il fallait d'ores et déjà penser les résolutions de ces questions au niveau européen. Donc, le partage de la souveraineté est la solution pour les problèmes existants, aussi bien économiques que sécuritaires. Donc je pense, dans cette situation de mise en question et de crise que traversent actuellement aussi bien les États-nations que le projet européen, il a un intérêt aussi bien du niveau européen que des politique au niveau national, de faire appel à des visions qui parlent aux gens. Et bien sûr, l'armée européenne est quelque chose qui évoque des sensations et des émotions fortes.
Alors justement, est-ce que Pierre Haroche, vous partagez cet avis?
Alors je pense qu'il n'y a pas simplement une dimension politique, l'approche des élections et les arrière-pensées des leaders. Je pense qu'on est aussi dans un contexte qui depuis quelques années favorise beaucoup les initiatives européennes en matière de défense. On a vu le lancement de la coopération structurée permanente en 2017, on a vu aussi l'initiative de la Commission européenne, le Fonds européen de la défense, on a vu l'initiative de la France, l'initiative européenne d'intervention. Donc on voit les initiatives se multiplier en ce moment, c'est pas simplement un moment comme les autres en matière de défense européenne. Et ce contexte lui-même s'explique par une évolution aussi du contexte stratégique. On voit les menaces qui s'installent aussi bien à l'est avec la Russie qu'au sud avec le djihadisme islamiste. On voit que les États-Unis ont une attitude de moins en moins évidente et parlent de plus en plus de se désengager des conflits ou de leurs engagements dans le monde. Et tout ça, ça pousse les Européens à se dire bah maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'il va y avoir des missions qu'on va devoir assurer qu'on n'assurait pas auparavant? Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'est pas prêt à faire, qu'on va devoir être prêt à faire? Et donc il y a un contexte stratégique, il n'y a pas simplement une dimension politicienne, et c'est pour ça d'ailleurs que ce concept d'armée européenne, il est aussi évoqué depuis plusieurs années. Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, il en parlait déjà en 2015, d'autres leaders en ont parlé depuis.
Alors derrière ce vocable, cette expression armée européenne, les contours sont flous. Quelle forme pourrait prendre cette armée ?
Ben, je pense qu'il faut comprendre tout de suite que c'est pas une proposition concrète, immédiate, qui est posée sur la table. Ni le président français, ni la chancelière allemande n'ont proposé un plan concret lorsqu'ils en ont parlé. Ils en ont parlé comme un concept politique avec un horizon à atteindre. Et donc il ne faut pas s'attendre à ce qu'on nous donne des éléments en matière budgétaire, en matière de gestion des troupes ou du système de commandement. C'est d'ailleurs ce qu'ont reproché un certain nombre d'experts de la défense. Le parlementaire européen Arnaud Danjean, qui est un des meilleurs experts des questions de défense au Parlement européen, a dit « on nous parle de quelque chose de très flou, parlons de choses concrètes sur lesquelles on peut travailler ». Mais je pense et que il n'y a pas simplement la dimension technique des projets sur lesquels on peut travailler immédiatement, que ça a aussi un sens, comme on le disait tout à l'heure, de donner un horizon aux citoyens et de faire comprendre aux citoyens qu'on est aussi dans un moment qui change et où il faut être à la hauteur de ce nouveau contexte.
Johanna Hammering, vous vouliez réagir?
Oui, je suis entièrement d'accord qu'on est dans un contexte stratégique très spécifique. On peut dire une dégradation de l'environnement de sécurité de l'Europe, aussi bien avec une Russie plus menaçante, plus combative, et des relations transatlantiques qui sont devenus, mais ça s'est déjà annoncé sous l'administration d'Obama, beaucoup plus transactionnels. Donc, c'est évident que cette pression qui est faite sur les décideurs européens d'agir, aussi bien sur ce fonds stratégique, cette pression, elle est très forte. Mais il faudrait quand même se rappeler qu'en ce qui concerne les initiatives de sécurité et de défense, ensemble, vivre toujours quelque chose qui nous fait penser au film Un jour sans fin. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce film où un journaliste de météo est forcé de revivre sans cesse le même jour. Et avec les initiatives de défense et sécurité en Europe, c'est un peu la même chose. Donc on a une grande déclaration qui est faite, une réaction immédiate du commentariat. Et après, beaucoup d'attentes qui sont créées et après les choses se tassent. Et je crains que l'armée européenne évoquée rentre dans ce contexte-là et qu'elle n'est pas non seulement une fausse bonne idée, mais elle a tout le potentiel d'être une fausse mauvaise idée. Parce que dans la construction européenne, on a l'habitude de laisser planer un peu une ambiguïté constructive quand on n'a pas la possibilité d'avancer. Donc, mais si la distance entre les déclarations et les faits se transforme en gouffre, cette ambiguïté constructive devient une ambiguïté destructive. Et je pense qu'on n'a pas besoin, dans notre climat politique actuel, de décrédibiliser aussi bien le niveau européen que national en faisant des propos qui sont très très loin de la réalité.
Alors on l'évoque assez peu, d'après vous, pour avoir une certaine forme de légitimité, est-ce que cette armée devrait se doter de la puissance nucléaire ? Pierre Arroche.
Mais là aussi, si on n'a pas de détails sur l'armée, on est encore très loin de parler de questions nucléaires. Et en plus, je pense que la dimension nucléaire n'est pas celle qui est la plus facile à européaniser.
Ce n'est pas sine qua non.
Non. Donc, je pense qu'il ne faut pas aller chercher ce qu'il n'y a pas dans ce débat. En revanche, ce que je voudrais répondre à cet argument selon lequel on va faire un décalage entre la réalité et les mots, c'est que pour l'instant, les engagements et les réalisations concrètes, elles sont en décalage par rapport à ce qu'il faudrait, par rapport aux exigences du contexte stratégique dans lequel on est. Donc, se donner, oui, d'une certaine manière, des slogans mobilisateurs qui objectivent l'engagement des leaders et qui font prendre conscience aux opinions publiques qu'il y a un vrai défi devant nous, je pense que c'est pas forcément une mauvaise chose. Et c'est une façon de mobiliser parce qu'il y a un vrai défi.
Johanna Hammering.
Je partage cette évaluation, mais je pense que la route choisie est la fausse, parce que on a effectivement un grand besoin d'avancer sur la sécurité européenne, mais En se focalisant sur cette armée européenne, on peut vraiment prendre le risque de rater la cible. Alors, ce qui serait beaucoup plus important pour les Européens, aussi bien au niveau national que le niveau européen, c'est de penser qu'est-ce qui veut faire l'Europe, comment elle peut se défendre et comment peut-elle mener à bien des projets sur la scène internationale. Donc ça, c'est la première question. Réfléchir
indépendamment d'une armée.
Oui, et dans ce cadre-là de la réflexion et de l'action stratégique, de penser l'élément militaire. Parce que dans les relations internationales d'aujourd'hui, on n'est pas du tout sûr qu'est-ce qui peut faire la puissance militaire. Comment l'utiliser? Qu'est-ce qu'elle peut atteindre? Donc il faut mener cette discussion et il faut, deuxième point, très important, travailler sur les piliers de la sécurité européenne qui existent. Et ceci, de les renforcer parce qu'ils sont tous les six, si on a un peu le temps, on pourrait les évoquer, sont bancals en partant de la sécurité, de la garantie de sécurité des États-Unis dans le cadre de l'OTAN jusqu'au projet d'une construction de sécurité et de défense européenne ou des relations bilatérales.
Alors justement, est-ce que vous pensez que c'est l'arrivée au pouvoir de Donald Trump qui, en quelque sorte, a fini de convaincre les Européens, en tout cas certains dirigeants européens, à créer une armée, Pierre Haroche?
En tout cas, d'en parler, je pense que ça a joué un rôle. La crise ukrainienne auparavant a joué un rôle, le Brexit a joué un rôle. Aussi, des crises comme les crises terroristes et migratoires ont aussi joué un rôle pour convaincre certains États que ce qui se passe à l'extérieur de l'Union européenne, ça peut avoir un impact sur ce qui se passe dans l'Union européenne et que donc il fallait s'intéresser à la sécurité internationale. Il y a tout ce contexte qui fait que la défense européenne qui pouvait être un sujet secondaire auparavant est redevenu un sujet de premier plan. Mais l'enjeu qu'on voit avec l'évolution de la position américaine, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait plus exactement dans quelle mesure on peut compter sur les États-Unis. Il y a des gens qui écoutent ce que disent Donald Trump et se disent on peut pas du tout compter sur eux. Il y a des gens qui regardent ce que font les États-Unis en termes de positionnement de troupes en Europe et qui disent si, regardez, ils sont quand même là, ils mettent des troupes en Pologne, dans les États baltes, ils sont présents. Entre les deux, il y a des gens qui disent Donald Trump, c'est une parenthèse, il suffit d'attendre et après tout reviendra à la normale. Ça veut dire qu'en fait, on ne sait pas du tout ce qu'on peut attendre des États-Unis. Et l'incertitude, c'est mauvais parce que en matière de défense, il faut faire des investissements de long terme. Et on peut pas faire des investissements de long terme si on ne sait pas, si on se dit que finalement, en attendant quelques années, c'est même pas la peine d'investir parce que les Américains feront tout pour nous. Donc, on est dans un moment un peu difficile. On sait que sur le long terme, ça va être nécessaire d'unir les forces des Européens parce qu'il faut assurer notre sécurité et que maintenant, c'est de plus en plus sur nous que ça repose. Mais en même temps, les signaux qui nous sont donnés sont contradictoires. Et c'est pour ça que ça peut avoir un sens de dire, maintenant, il faut passer à une étape supérieure. Parce que ce qu'on est en train de faire là, c'est, dans le Fonds européen de la défense, dans les projets de la coopération structurée permanente, ça reste des étapes intermédiaires. Les projets de la coopération structurée permanente, par exemple, manquent encore un petit peu d'ambition. Le Fonds européen de la défense, on sait pas encore, dans quelle mesure ça va être une réussite. C'est encore en débat. Donc, il faut pousser encore la défense européenne parce que ce n'est pas du tout un acquis.
Johanna Meuring.
Alors, je pense que au sujet des États-Unis, on est face à une aporie parce que la coopération militaire en Europe se fait à cause des États-Unis, parce que c'est la présence américaine qui a d'abord permis la construction d'une Europe comme nous la connaissons aujourd'hui. Et c'est sa garantie de sécurité qui a permis également notre existence. Mais en même temps, c'était une présence qui a permis la collaboration parce qu'il y avait un leader clair qui donnait le là, qui donnait dans le cadre de l'OTAN des objectifs clairs. Et on se rend compte entre pays européens, c'est beaucoup plus difficile d'avancer parce qu'il n'y a pas un primus inter pares, parce qu'on est face à des pays qui ont tous leurs intérêts nationaux, leurs préférences ou priorités stratégiques. Et c'est rudement difficile de trouver des accords entre pairs.
Alors l'Europe a-t-elle besoin d'une armée, en tout cas pour l'OTAN ? Eh bien, par la voix de Jens Stoltenberg, le secrétaire général norvégien, eh bien, il a très rapidement répondu cette semaine. Il a mis en garde contre tout projet européen qui concurrencerait l'Alliance Atlantique. Nous avons besoin d'une structure de commandement forte et compétente et on n'a pas besoin de diviser les ressources en deux, a-t-il commenté cette semaine. Alors comment forces de l'OTAN et armée européenne pourraient s'articuler ?
Par exemple, la chancelière Merkel a dit qu'elle était pour une armée européenne à terme, mais que ça ne devait pas être en contradiction avec l'OTAN. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que pour l'instant, il y a tout à fait la place pour un effort de coopération européenne en matière de défense, mais qui ne prenne pas la place de la coopération avec les États-Unis et dans le cadre de l'OTAN, parce que on sait que il y a un certain nombre de missions que les États-Unis ne vont pas nécessairement vouloir mener vont accepter de soutenir sans assumer l'essentiel du fardeau. Et donc, dans ces cas-là, ça peut avoir un sens de développer la coopération entre Européens. Que ça se fasse dans le cadre de l'Union Européenne ou entre pays européens de l'OTAN ou dans un cadre informel comme qu'essaye de faire la France dans l'initiative européenne d'intervention. Finalement, c'est un petit peu secondaire, mais on sait que les Européens vont devoir faire plus ensemble parce que les États-Unis, ils ont d'autres missions et que parfois, ces autres missions prendront peut-être le pas en termes de priorité sur ce qui se passe en Europe et dans le voisinage européen.
Pour vous aussi, Yona Möhring, il y a la place à la fois pour les forces de l'OTAN et à la fois pour une éventuelle armée européenne ?
Je pense que la question se pose différemment. Il y a effectivement un consensus atlantique, transatlantique européen qui veut que les Européens doivent atteindre cette fameuse autonomie stratégique, ce qui veut seulement dire de prendre en charge certaines capacités et certaines opérations pour s'occuper eux-mêmes de leur sécurité. Mais dans le cadre d'une défense territoriale, il est clair que les États européens seraient absolument incapables de gagner ou même de mener une guerre conventionnelle dans le théâtre européen. Donc, on dépend des États-Unis et je ne vois pas ni à court, moyen ou long terme, on pourrait remplacer cette garantie de sécurité.
Enfin, faute d'armée européenne, ou en tout cas en attendant aussi ou pas une armée européenne, juste pour conclure, pour vous, quels seraient les différents progrès possibles vers une défense commune ?
Je pense que les Européens pourraient faire plus pour se porter vers faire des efforts dans les mêmes directions et avoir les mêmes objectifs stratégiques. Par exemple, on voit que pendant longtemps, il y a des pays qui regardaient plus vers l'Est, d'autres pays qui, comme la France, avaient plus d'intérêt vers le Sud, vers l'Afrique. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des pays qui essayent de dépasser un petit peu cette opposition et ces divergences stratégiques pour essayer d'aller vers les uns vers les autres et de partager plus des objectifs stratégiques, de partager une appréciation de la menace commune. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'important. Parce qu'on ne peut faire un effort de coopération européenne que si on va tous dans la même direction.
En quelques mots ?
Oui, je pense effectivement qu'il faut avancer sur deux volets, le volet capacitaire et le volet opérationnel, pour pousser aussi des pays qui sont soit sur l'un, sur l'autre, hors de leur zone de confort, pour affronter aussi des positions qu'ils auraient préféré d'éviter.
C'est la fin de ce débat, peut-être largement écourté. On aurait pu encore poursuivre la discussion longtemps. Merci beaucoup, Johanna Möhring. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes chercheur associé au centre Thucydide, qui dépend de l'université Paris 2. Également chercheur à Londres pour l'Institute for Statecraft. Et puis Pierre Arroche, chercheur en sécurité européenne à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Réalisation Claude Battista. Merci également pour la documentation Emmanuel Sevin, coordination Florence Ponce et Déborah Lepage. Dès lundi, derrière ce micro, un nouveau débat proposé par la rédaction de Radio France Internationale. Débat qui sera animé par Guillaume Nedin. Bonne soirée à toutes et à tous.